Alors bien le bonjour à tous.
Bonjour.
Il fait un peu plus chaud ce matin, on est content, hein? Et voilà. Merci pour la lumière, merci. Je vous bénisse. Tout va bien, c'est bien, gloire à Dieu. Il y a Stéphane qui s'est monté un meuble avec Samuel jusqu'à minuit cette nuit. On est toujours en train de monter des nouveaux meubles, parce que voilà, c'est une grande maison et puis on a beaucoup de choses, mais on n'a pas tous les meubles qu'il faut, donc petit à petit, voilà, je vous raconte ma vie, hein, c'est pour vous expliquer que voilà, ça bouge et puis on est en train de s'établir et puis c'est bien, on est content. On est content d'avoir notre sœur Georgette aujourd'hui avec nous, que Dieu la bénisse. Ça nous fait plaisir d'avoir sa visite de temps en temps. C'est une parisienne. Hein. Et tout le voyage, c'est vraiment gentil. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 25, verset 21. 25-21. Je ne vais pas vous lire toute la parabole, je pense que vous la connaissez. C'est l'histoire des talents. Donc il y en a. Il y en a qui viennent rendre les talents que Dieu leur a donnés, et il y en a un qui rend 5 talents plus 5 qu'il a gagné. Et Jésus lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour que nous comprenions bien ce que tu as à nous dire ce matin. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour l'intelligence que tu nous donnes de ta parole pour que nous puissions la vivre, que ça ne soit pas simplement tout un paquet de doctrines, mais que ça soit quelque chose de vivable et qui nous rend heureux et qui rend les autres heureux. Merci Jésus. Amen. Alors, vendredi passé, je vous parlais un petit peu de l'introspection. Alors, c'est une chose que j'aime pas, c'est ça. L'introspection. Je trouve que fouiller au fond de soi-même, c'est absolument s'égarer à tous les coups. En tout cas, moi, quand je fouille en moi-même, je m'égare à tous les coups. Ce n'est pas le bon endroit pour trouver des réponses. Ce n'est pas en moi-même. Frères et sœurs, la joie ne se trouve pas dans la réussite de ceci ou de cela. Et quand on fouille en soi-même, on se dit, j'ai quand même réussi ça, j'ai raté, et c'est parce que j'étais comme ça, c'est parce que j'ai dit ça, c'est parce que... Non. Mes frères et sœurs, la joie se trouve pas. D'abord, c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Qu'est-ce que ça signifie? Quand un disciple de Jésus est heureux de faire ce qu'il fait, ça, c'est la réussite. Oui ou non? C'est ça, la réussite. Les chrétiens ont la démangeaison de connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que, c'est vrai, Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu pourront rentrer dans son royaume. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Ça semble important, puisqu'il faut faire sa volonté pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il prie pour connaître la volonté de Dieu. Et il passe des années, hein, il ne trouve pas. Et ils regardent au fond d'eux-mêmes, ils se demandent en eux-mêmes s'ils font la volonté de Dieu. Et ils se demandent si ce qu'ils font est suffisant pour plaire à Dieu. Mais c'est stupide. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre maintenant avec la bonté pour soi-même et pour les autres. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Je vais développer cette idée. Il faut que ça soit simple. Si ça n'est pas simple, si c'est de la théologie, alors beaucoup de gens vont passer à côté. Et la Bible nous dit que même les enfants doivent pouvoir comprendre. Alors, si un enfant peut comprendre ce que je dis ce matin, c'est bien. Mais la théologie, excusez-moi. Quand je vois notre frère Philippe et notre frère Samuel se casser le dos à casser derrière ce mur qui est épais comme ça, il fait moins 60 cm, non, c'est de la grosse pierre, puis c'était fait il y a longtemps, c'est solide, c'est pas des. Hein, c'est comme les cathédrales, cet endroit-là, ça je sais pas combien de centaines d'années. Quand je vois ces frères faire ce boulot et puis ramper sous la maison parce qu'il y a un, comment on appelle ça, un vide sanitaire qui fait à peu près 40 cm. Ah, ils ont été obligés de maigrir pour pouvoir aller ramper là-bas dessous. Non, je plaisante. Mais donc, c'est, quand je vois qu'ils font ça, eh bien, tout ça pour faire une chambre pour pouvoir accueillir le papa de Stéphane qui a 86 ans et si on l'accueille pas, ben, il va aller dans une maison de retraite. Ben, quand je vois ça, je dis ça, c'est la volonté de Dieu. Ce qu'ils font là, c'est la volonté de Dieu. C'est pas écrit dans la Bible, creuser des murs pour accueillir le papa de Stéphane. Hein? C'est pas écrit. Mais c'est la volonté de Dieu parce que c'est la bonté. C'est de la bonté. Ils sont pas en train de rouspéter en le faisant, en disant, ouais, quand même, alors je suis un serviteur de Dieu, puis c'est ça que je fais. Non. Ils le font avec bonté. Quand je vois Dominique, qui brique la vaisselle, qui nettoie bien la cuisine le soir, des fois, on est déjà tous devant la télé, on dit, Dominique, tu viens, oui, mais j'ai pas tout à fait fini. Hein. Mais quand je vois Dominique faire ça, je fais la bonté de Dieu. Il fait la bonté de Dieu parce qu'il y met de la bonté, il y met de l'amour, il fait tout ce qu'il peut. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Quand les frères montent mon armoire dans mon bureau, chose que je suis absolument incapable de faire, c'est, ils font la volonté de Dieu. C'est de la bonté. Prendre conscience de ça, mes frères et sœurs, c'est de l'intelligence spirituelle. Quand Michou fait le repas du midi, ou fait le repassage, ou arrange bien mes chemises dans l'armoire, et même mes slips, elle les repasse. Ça serait que moi, je ne repasserais pas mes slips. Hein, je vous mettrai dans un tiroir, puis c'est tout. Non, elle les repasse, elle les plie bien comme il faut. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. On dirait slip, oui. Tout ce qu'on fait avec amour, tout ce qu'on fait avec bonté, c'est la volonté de Dieu. Quand je vois Marie-Claire, qui après sa journée de travail, rentre ici, puis fait à manger pour les 15 personnes que nous sommes, eh ben, là aussi, elle fait la volonté de Dieu parce qu'elle le fait avec amour, elle le fait avec bonté. Et puis, ça se sent que c'est fait avec amour, avec bonté. Oui ou non?
Oui.
C'est bon ce qu'elle nous fait aussi, hein. Et puis, Olivier, il était couronné le roi de la tartiflette. Parce qu'il y met tout son cœur. Ben, il fait la volonté de Dieu en faisant la tartiflette. Parce qu'il y met du cœur, il y met de l'amour. Et voilà. Et puis la reine de la tartiflette, c'est quand même Michou toujours. Hein. Hein. Puis le roi de la fondue, c'est moi. Et quand je vois Mélo qui part à 5h du matin pour aller bosser, pour pouvoir nourrir sa petite famille, eh ben, c'est avec bonté qu'elle le fait. Elle fait la volonté de Dieu. Elle fait la volonté de Dieu. Bref, tout ça, c'est la volonté de Dieu parce que tout ça, c'est de la bonté. C'est de l'amour, si vous voulez. J'aime bien dire le mot bonté parce que ça change, parce que le mot amour, maintenant. Hein. Bref, ça se voit que c'est de la bonté parce que toutes ces activités sont bien faites pour servir les autres. Pour servir les autres. Et quand on fait quelque chose pour les autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Alors l'armoire que vous avez montée dans ma chambre, c'est l'armoire que vous avez montée pour Dieu. Et Dieu est très content. Dieu vous dit merci. Moi aussi d'ailleurs. Comprendre ça, c'est juste un immense changement de perspective. Beaucoup pensent que faire la volonté de Dieu, c'est partir à l'autre bout du monde, prendre un micro, monter sur une estrade, prêcher, guérir les malades. C'est aussi ça. Mais on ne fait pas ça tous les jours. Moi qui le fais souvent, je ne le fais pas tous les jours. Il y a d'autres choses que je fais. Comprenez? Et toutes ces choses que je fais, quand j'y mets de l'amour, quand je mets de la bonté dedans, eh bien, ça devient, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, ce que vous faites quand vous servez les autres, eh bien, vous êtes en train de vous abandonner à la situation pour coïncider avec les gens. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez conscience que vous êtes environné de personnes, que vous avez besoin d'eux et qu'eux, ils ont besoin de vous. Et ça, c'est l'amour, ça, c'est... Vous êtes en train de vous abandonner à la situation pour coïncider avec les gens. Je ne sais pas si c'est très français, cette phrase, mais je pense que vous l'avez compris. Qui c'est qui a compris? Vous avez tous compris. Alors, je me souviens de mon oncle Maurice. Mon oncle Maurice, j'étais haut comme trois pommes, j'avais 10 ans, et chaque fois qu'il venait le dimanche, c'était toujours la même question. Alors, mon petit Michel, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera grand? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Mais j'en savais rien. J'en savais rien. Et sa question me terrorisait. Je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand? C'était terrible. Et c'est de même aujourd'hui. Quand on prend un moment, par exemple, de repos, moi, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, plus je vieillis, plus j'aime bien. C'est peut-être parce qu'on est dans le sud-ouest, et c'est un esprit dans le sud-ouest qui nous pousse à aller faire la sieste. Donc, quand je vais faire ma sieste l'après-midi, quand je prends un moment de repos, une petite demi-heure comme ça, je ne dors même pas, je m'étends, puis je reste tranquille. Quand il y a une petite voix qui vient et qui me dit « Alors, Michel, tu vas y retourner en 2020 en Afrique pour prêcher ?» J'en sais rien, mais j'en sais rien, 2020 c'est loin. On dira, bon, c'est loin, c'est dans 2 mois. Ben oui, justement, dans 2 mois, il peut s'en passer des choses en 2 mois. Moi, j'en sais rien si je veux y aller. On peut plus ou moins y réfléchir, mais j'en sais rien. Quel moyen est-ce que j'ai de découvrir ce qui m'appelle avant d'entrer en rapport avec la situation réelle de la vie? Qu'est-ce que je peux savoir? Je peux faire des projets, éventuellement, oui. Si cette petite voix vient me parler alors que je cherche juste à me reposer un moment, je lui dis « Stop ! En ce moment, je fais la volonté de Dieu. » « Ah bon ? Oui, je me repose. » « Mais tu fais rien. » « Ben si, c'est faire quelque chose, se reposer. » De temps en temps, il faut se reposer. Je dis ça surtout à ma femme. C'est vrai, se reposer, s'arrêter un moment, se reposer, c'est faire la volonté de Dieu. Alors je dis à cette petite voix, ne me dérange pas, je suis très très occupé à faire la volonté de Dieu en faisant ma sieste. Je dis ça exprès un peu pour vous faire, pour vous impressionner, pour vous faire voir que quand on fait les choses avec le but d'aimer, quand j'ai fait ma sieste, après je suis plus reposé pour pouvoir faire d'autres choses. Quand on se repose un moment, le repos c'est nécessaire. C'est nécessaire. Quand j'étais jeune, je pensais que aller au lit, dormir, c'est une perte de temps. Ben non, c'est pas une perte de temps. C'est nécessaire. Il est bon de s'offrir des moments vierges, de temps en temps, vierges de toute activité, juste se reposer. Mais quand cette petite voix, alors quand on se repose, cette petite voix elle vient. Bon, mais t'as pas fait ça, faudrait quand même que tu penses à faire ça, puis à le téléphone à donner, puis machin, puis là, stop! Je suis en train de faire la volonté de Dieu, je me repose. Il faut faire les choses dans ce but. Un disciple de Jésus, c'est une personne qui s'est autorisée de s'écarter des autoroutes que tout le monde emprunte. Voilà ce que c'est qu'un disciple. Un disciple de Jésus, c'est une personne qui est entrée dans le repos, dans le Shabbat de Dieu. Entrer dans mon repos. Ah, j'aime cette religion. Entrer dans le repos de Dieu. La foi, ça nous calme. La foi, moi j'ai besoin de me calmer. Maintenant ça va mieux, j'ai 70 ans bientôt, mais avant j'étais... Il faut rentrer dans le repos du Seigneur. Eh bien, ça, c'est merveilleux. Vous savez, on peut être dans le repos du Seigneur. Entrer dans le repos du Seigneur tout en étant très actif. Demain, quand Philippe sera en train de ramper sous la maison, et puis que Samuel lui passera les machins et trucs, et puis les perceuses et compagnie, je dirai « Tu fais quoi ?» Il va me répondre « Je me repose !» Parce qu'on peut faire les choses dans le repos de Dieu. Sachant qu'on est... On fait quelque chose qui est bon, qui est bien. Donc, c'est... Un disciple de Jésus aime ce qu'il fait. Il met de l'amour dans ce qu'il fait. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très agréables. Quand je vois Dominique en train de peler les patates, je sais bien que ce n'est pas agréable. J'ai trouvé d'ailleurs une machine géniale qui n'est pas chère. Faut que tu me fasses penser. Parce que tu me disais, oui, mais les patates, elles ne sont jamais bien épluchées avec les machines. Mais on a inventé une qui épluche merveilleusement bien, puis elle n'est pas chère. En plus, on va l'acheter 2 ou 3, parce qu'on est nombreux. Mais parce qu'éplucher les patates, c'est pas rigolo. Je le sais, je l'ai fait à l'armée. Et puis, je l'ai fait depuis, je l'ai fait souvent. Mais quand même, à l'armée, qu'est-ce que j'en ai plein des patates. Mamma mia. Parce que on met de l'amour dans ce qu'on fait, parce que c'est la voie qui nous convient. C'est selon notre nouvelle nature. On n'a pas envie de mettre autre chose que de l'amour dans ce qu'on fait. Un disciple de Jésus, il sait ce qu'il veut vraiment. Il veut faire la volonté de Dieu. si mon tonton Maurice revenait puis qu'il me disait « Alors mon petit Michel, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?» Je dirais « Je vais faire la volonté de Dieu. » Peut-être qu'il aurait fait si j'avais répondu ça. La volonté de Dieu, c'est d'aimer. C'est ça ? Aimer. Pas aimer bêtement, en parole. Ou... Non, mais aimer en action, en faisant des choses pratiques, qui aident les autres, qui les élèvent, qui... Vous voyez ? Et quand tu agis avec amour et par amour, eh bien, tu es bien avec toi-même. Tu as une certaine satisfaction. Tu es content. Moi, je suis content. Et ce bien-être-là, c'est le signe de l'approbation de Dieu sur ta vie. Je suis content. Ce que j'ai fait, c'est super. Là, ce matin, je suis descendu et... Il y avait dans le salon le meuble que Stéphane et Samuel ont monté jusqu'à minuit, parce que c'était un puzzle. J'ai fait une photo, il y en avait plein sur la table, des vis, des boulons, des machins, des trucs. C'est terrible. Et bien, je n'ai même pas vu le meuble. Il me dit, tu l'as pas vu? Je dis, ben non, il est tellement beau, il se confond tout à fait dans le décor, parce qu'il est beau. Alors, il était content, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu parce qu'il est beau. S'il était moche, je l'aurais vu tout de suite, parce que ça n'aurait pas cadré dans le reste de la maison. Quand on fait quelque chose de bien, quand on fait quelque chose, il faut que ça soit bien. Bon, je me rappelle, quand on a décidé de vendre le château, j'ai dit, on vend quelque chose de beau, mais ce qu'on va acheter, faudra que ça soit encore plus beau, parce que sinon, c'est la honte. C'est vrai, on veut glorifier Dieu, on veut toujours que ça soit le mieux pour glorifier Dieu et pour que on vive bien. Vous ne voulez pas vivre bien ? Bien sûr qu'on veut vivre bien. Ben ça, c'est la volonté de Dieu, que vous viviez bien et que vous aidiez les autres à vivre bien. Vous voyez, les chrétiens qui cherchent quelle est la volonté de Dieu, en fait, ils sont malheureux. Parce que s'ils cherchent, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé. C'est que ça. S'ils cherchent, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Dieu dirige nos pas. Moi, je le crois, vraiment. Mais il y a cette petite histoire que Raphaël m'avait racontée. Pour qu'il puisse diriger nos pas, il faut d'abord être en marche. Si je suis comme ça, sans bouger, comment voulez-vous qu'il me fasse aller à gauche ou à droite? Il faut d'abord que j'avance. Si je suis dans la voiture, et puis que j'ai les mains sur le volant, et que j'ai mis le contact, mais que je n'avance pas, comment voulez-vous que j'ai beau tourner le volant, je ne vais ni à gauche ni à droite, hein? Mon petit troupeau, ne regarde ni à gauche ni à droite. Oh, mais de temps en temps, il faut quand même y aller à gauche ou à droite, il faut faire quelque chose, ceci ou cela. Mais si tu ne te mets pas en marche, comment veux-tu que Dieu te dirige à gauche ou à droite? Tu ne peux pas. Il faut d'abord se mettre en marche. C'est-à-dire, il faut commencer à s'activer, à faire quelque chose. Et c'est le texte de ce matin. Tu as été fidèle dans peu de choses, eh bien, je t'en confierai de plus grandes. Alors, Dominique, il épluche les pommes de terre, là, presque au moins 4 fois par semaine, puis il y en a, hein, parce qu'on est nombreux. Eh bien, Dieu lui dira, entre dans la joie de ton maître, je vais te confier de grandes choses. Mais pourquoi, Seigneur? Ben parce que tu les as bien épluchées, ces patates. Vous voyez? Mais c'est ça la réalité de la vie. C'est ça la réalité avec notre Seigneur. C'est pas se casser la tête avec de la théologie, de machin impraticable, de bêtises. Non, c'est la vie pratique. Si tu marches pas, si tu t'actives pas, Dieu ne peut pas te conduire, te diriger. Il faut que tu te bouges. Même pour le baptême dans le Saint-Esprit, quand on parle en langue, c'est écrit, les apôtres, ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est selon que l'Esprit leur donnait, mais c'est eux qui se sont mis. S'ils étaient restés la bouche fermée, ils n'auraient pas parlé. Hein. Ils n'auraient jamais pu parler en langue. Mais ils en parlent en langue parce qu'ils ont ouvert leur bouche et ils se sont mis à parler. Vous voyez, pour les plus spirituels, je dis ça. Faire les choses par amour. Si tu es fidèle en cela, Dieu t'ouvrira des portes pour que tu fasses des choses plus grandes. Éplucher des plus grosses patates. Non, mais il va te donner des responsabilités, des choses qui sont plus grandes, plus importantes dans son royaume, dans son église, dans sa maison, dans le monde. Celui qui n'agit pas, mais fait que de prier, c'est déjà une chose, mais bon, voilà, ça peut aussi être une planque, hein, la prière. Celui qui n'agit pas, mais qui fait que de prier pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, ben il se fige et il devient un fossile. pas un fossile, hein. Un fossile, vous savez ce qu'un fossile. Fossilisé. Et il y en a plein les églises, des gens fossilisés. Plein. Je lisais la vie dernièrement parce que j'ai retrouvé une collection, je crois que c'est Philippe qui m'avait offert des, sur les peintres, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a toute une collection de rouge et toute une collection de bleu, et c'est magnifique. Et je lisais l'histoire de Cézanne. Je n'ai pas lu toute l'histoire de Cézanne, mais j'ai commencé à le lire et il y a quelque chose que j'ai trouvé fantastique, c'est que ce monsieur, qui est un peintre quand même qui a révolutionné son époque, eh bien Cézanne, il avait une ambition. Il voulait peindre comme Poussin, pas comme un Poussin qu'on a là. Non, il y a un peintre qui s'appelle Poussin et qui a fait des choses absolument magnifiques, mais ça n'a rien à voir avec Cézanne. Et il voulait faire comme Poussin, il se cassait la tête. Poussin, c'était un grand maître classique du XVIIe siècle, il essayait, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il n'y arrivait pas. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire à lui-même en faisant de l'introspection ? Je me demande s'il faut que je continue. Mais s'il avait demandé ça, il serait dit non, ça vaut même pas la peine que je continue, il aurait posé ses pinceaux, puis il aurait été faire poinçonneur au des lilas. Enfin, je dis n'importe quoi, il aurait fait autre chose, quoi. Alors, il ne serait pas devenu celui qu'on connaît. Mais non, il n'a pas fait ça. Il aurait pu dire, oui, bon ben, j'y arrive pas, je suis pas doué, je suis pas capable, je suis un nul, pourtant depuis le temps que je fais ça, je fais pas de progrès, j'y arrive pas, je vais devenir autre chose, voilà. Cura fichi, pour les Suisses. Vous savez pas ce que c'est pour les Français, ben je vous dirai pas. Vous avez qu'à demander à un Suisse, qu'est-ce que ça veut dire, cura fichi. Il aurait fait, Cézanne aurait fait cura fichi, voilà. Non, il était fidèle à son talent. Il avait un talent, il était fidèle à son talent et à ce qu'il savait faire. Et il l'a fait du mieux qu'il pouvait. Et ça n'a pas donné n'importe quoi. Ça a, il est devenu le fondateur, je ne sais pas comment on appelle ça, le créateur de l'art moderne. Il a révolutionné le monde de la peinture. Toi, avant tout, tu n'es peut-être pas un peintre. Tu es un disciple de Jésus. Et en tant que disciple de Jésus, il faut que tu fasses ce que tu sais faire le mieux, et le mieux que tu peux, et y mettre tout ton cœur, tout ton amour. C'est tout ce que Dieu te demande. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire que Dominique, il sait faire que d'éplucher les patates, c'est juste pour rigoler entre nous, hein. Il fait des tas de choses. Ça ne sert à rien de se dire, je suis nul, je ne fais pas de progrès. Aime la personne que tu es. Aime la personne que tu es. Agis avec ce que tu as en y mettant tout ton cœur. Maintenant, je vais accuser quelqu'un. Je vais accuser Émile Zola. Parce qu'il écrit un livre, j'accuse. Ben, moi, j'accuse aussi. J'accuse Émile Zola. De quoi ? Eh bien, Cézanne avait un ami qui s'appelait Émile Zola, le fameux Émile Zola. Ils étaient copains d'école. Je ne savais pas, tu savais, toi ? Ils étaient copains d'école. Ils s'étaient connus tout petits. Ils avaient chacun leur oncle Maurice qui leur disait « Alors, tu vas faire pas quand tu seras grand ?» Ils étaient amis d'enfance. Émile Zola reprochait sans arrêt à Cézanne, de ne pas assez soigner les expressions de ses personnages. Mais il le harcelait avec ça, ils ont fini par se fâcher, et c'est Émile qui a laissé tomber Cézanne. Bravo, l'Émile, le gentil Émile. Ça aurait pu le décourager, Cézanne, que son copain Émile l'a laissé tomber. Non. Il a continué à faire ce qu'il a fait et il a révolutionné l'art. Tant pis pour Émile. Émile a fait son boulot de son côté, il l'a très bien fait d'ailleurs. On ne va pas lui reprocher ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais n'empêche que voilà, il aurait pu écouter son copain Émile et puis dire « Ouais, c'est vrai, je ne suis pas doué, nan, nan. » Vous voyez, personne ne devient ce qu'il doit être en faisant de l'introspection ou en écoutant tout le monde, la vie de tout le monde, tout le temps. Non, il faut faire spontanément les choses qu'on sait faire, mais les faire avec amour. Et puis, quand on nous demande de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, eh bien, essayez, puis avec de l'amour, bon, on y arrive. Moi, je ne suis pas bricoleur pour 2 ronds. Demandez aux frères dans la communauté, ils ne me veulent pas quand il y a du débricolage à faire. Ils me chassent, parce que si un clou a planté, vous êtes sûr qu'il va se plier en 4. Vous êtes sûr que je vais me taper sur les doigts et des trucs, je vais tout casser. Je ne suis pas bricoleur. Mes parents, ils voulaient que je sois un sanglier décorateur. J'ai fait un sanglier décorateur pour leur plaire, je vous ai dit ça la dernière fois. Mais c'était horrible pour moi, parce que c'est beaucoup de la bricole, beaucoup du travail manuel. Mais à force, j'y suis arrivé et je suis sorti premier de ma section sur 30. Parce que j'ai décidé que j'irais jusqu'au bout. Et j'ai mis de l'amour là-dedans, même que je n'aimais pas ce que je faisais. J'ai commencé à mettre de l'amour là-dedans. Et là, parce qu'entre-temps, je suis devenu chrétien et j'ai compris. Quand on devient chrétien, on comprend des choses que les autres ne comprennent pas forcément. Alors, il faut que tu suives ton chemin. Nous, disciples de Jésus, nous suivons Jésus. Il a dit, je suis le chemin. On est en train de suivre le Seigneur. On suit Jésus. Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il aimait. Vous n'allez pas rencontrer une bande de pharisiens qui jettent une prostituée par terre, qui vont décider de la lapider. Vous allez vous trouver dans d'autres situations. Mais vous allez trouver le moyen de manifester de l'amour comme Jésus a manifesté de l'amour dans cette situation et dans bien d'autres. On trouve toujours le moyen. Camilla la gitane disait, on trouve toujours une cheville pour boucher le trou. Il n'y a que Stéphane qui ne sait pas ce que c'est les chevilles. Il m'a dit hier, mais c'est pas une cheville, mes chevilles c'est ça, c'est pas ça. Parce qu'on parlait, vous savez, de ces trucs qu'on met dans les trous pour mettre une vis ensuite. On rigolait. Parce qu'on est en train de bricoler. Donc, en suivant Jésus, on trouve, on sait qu'il faut aimer, parce que Jésus aimait, alors on trouve le moyen d'aimer. Quoi qu'on soit en train de faire, on le fait toujours avec amour. Et Jésus, quoi qu'il fasse, quoi qu'il faisait quand il était sur cette terre dans un corps semblable au nôtre, tout ce qu'il faisait, il le faisait avec amour. Même quand il a engueulé les pharisiens dans le temple, c'était par amour. Il ne les a pas condamnés, il les a juste secoués pour leur faire réaliser que ce n'était pas bien ce qu'ils faisaient. Tu dois être toi. Tu dois être fier d'être toi. Et être fier d'être soi-même, ce n'est pas de l'égocentrisme. N'écoutez pas ceux qui vous disent ça, ce n'est pas vrai. Être soi, c'est découvrir que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu es toi. Et tu es toi avec des liens, des obligations, des engagements envers les autres. Mais tu es toi. Et Dieu ne va jamais te demander de faire et d'être quelque chose que tu ne peux pas faire ou que tu ne sais pas faire. Dieu ne va jamais me demander de faire de l'équilibrisme entre ici et le chalet, sur une corde. Je ne sais pas le faire, j'aurais beau apprendre. Je sens en moi que ce n'est pas mon truc, quoi. La vie de Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu ne sais pas faire, que tu ne peux pas faire. Jamais, il n'est pas vicieux. Si il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a donné le talent d'abord. À toi de découvrir le talent que tu as. Pas en fouillant en toi, mais simplement en agissant dans le côté de ton corps. Ah ben tiens, je sais coudre. Ah ben tiens, je sais dessiner. Ah ben tiens, je sais raconter des histoires. Ah ben voilà, voilà. Et les gens vont dire, ah, mais t'as une belle voix. Et comme l'autre qui m'a écrit, s'il vous plaît, frère Janton, ne chantez plus. Vous n'avez aucune chance à The Voice. Mais je sais que je n'ai pas de chance à The Voice. Elle faisait de l'humour, enfin j'espère. Les gens vont reconnaître votre talent et puis ça va ouvrir des portes aux gens. La vie de disciple de Jésus, c'est une belle vie si tu as conscience que tu es une créature de Dieu. Alors tu peux être une créature de Dieu qui est limitée, plus limitée que d'autres, mais réjouis-toi d'être la personne que tu es. J'ai connu des gens qui étaient très limités, je me rappelle, à Tulsa, c'était la première fois que je voyais, que j'entendais le témoignage d'un homme en chaise roulante qui racontait comment il allait dans les prisons pour témoigner pour Jésus et tout. C'était bouleversant, c'était magnifique. Et après j'en ai vu d'autres tout au long de mon ministère, jusqu'à mon propre gendre, qui ne se plaignait jamais, qui était toujours, qui montrait son sourire, qui était, voilà, sois content d'être la personne que tu aimes, aie un bon comportement, de l'amour. Ça c'est bien. Réjouis-toi d'être toi, même si c'est pas, même si t'as pas une tronche extraordinaire. Ne te plains pas, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas Billy Graham? Et alors? Tu n'es pas Osborne? Et alors? Tu n'es pas Mère Teresa? Et alors? Et Zorro est
ça fait penser à la chanson.
Tu as des limitations? Moi aussi. Tu n'es pas parfait?
Moi non plus.
Et alors? On progresse à notre rythme. Vous en avez, leur rythme, c'est le rock'n'roll. Vous en avez d'autres, c'est le tango. Vous en avez d'autres, c'est le menuet. Vous avez toutes sortes de rythmes. Il n'y a pas qu'un rythme sur la Terre. Vous ne pouvez pas forcément aller à la vitesse des autres. Et alors? Et alors? Faites à ton rythme. Fais à ton rythme. Tant que tu le fais par amour, Dieu sera content de toi. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Vous vous rendez compte, si j'avais devant moi une foule de Michel Janton, on serait casse-pieds. Ils me diraient tous, oh, on sait. On a eu la même pensée hier soir. Ce serait pas marrant. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que même si on n'est pas pareil, on a tous le même but, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Quelle stature? Ben, en amour, bien sûr. Jésus, il va mesurer 1m80 à peu près, j'imagine. Bah, si vous mesurez 1m70, vous n'arriverez pas à mesurer 1m80, mais là, je ne peux pas atteindre la stature parfaite de Christ, parce que je mesure 1m70, puis je mesure 1m80. Il ne faut pas être bête, je vous parle de choses spirituelles, je vous parle de choses profondes. Atteindre la stature de Christ, c'est atteindre son niveau d'amour. Et ça, ça s'exerce. Puis de temps en temps, on se plante. Et puis de temps en temps, bah, alors après s'être planté, on se relève. Et puis voilà, on continue, pas à se planter, mais on continue à faire des progrès. Ouais, on n'arrivera jamais sur Terre à avoir cette stature parfaite. Mais, comme dit l'apôtre Paul, oublions ce qu'il y a en arrière, je vais vers l'avant et je continue. J'ai un but, c'est de progresser pour devenir de plus en plus comme lui. Alors arrête de te comparer à des gens que tu juges mieux que toi. Compare-toi à Jésus, c'est le mieux, c'est le grand modèle, tu sais que c'est inatteignable, mais tu vas tout faire les efforts possibles, parce que tu sais que lui, il t'aime. Il va t'aider. Quand tu cesses de te comparer aux autres, tu commences à avoir confiance, parce que c'est Jésus qui te oint de confiance. Confiance en Dieu qui sait très bien ce qu'il fait. Confiance en Dieu qui sait très bien qu'il t'a fait comme tu es. Et il te donne les possibilités de progresser pour devenir, non pas, attends, si tu mesures 1m70, progresser c'est pas devenir tout d'un coup un homme de 1m90, non, progresser en amour, progresser en efficacité, en gentillesse, en bonté, voilà. En te créant tel que tu es, il ne s'est pas trompé. Jamais, il ne s'est pas trompé. Aie confiance, avoir confiance en Dieu qui va te permettre de trouver des ressources au cœur de chacune des situations dans lesquelles tu vas passer. Tu ne vas pas t'user et te fatiguer, tu vas trouver des ressources pour manifester quelque chose d'encore plus grand. Nous, on a eu une épreuve terrible. Depuis 2015, c'était terrible. J'ai fait un petit calendrier. Tu l'as, le petit calendrier? Voilà, c'est le petit calendrier de 2020. Il n'est pas à vendre. Je vous le montre juste, c'est pour nous. Hein, voilà. Et on voit Michou en train de signer pour la vente du château. C'est la photo en début de calendrier. C'est Michou qui vend, qui signe pour la vente du château. Et j'ai appelé ce calendrier de l'agonie à l'extase. Mais oui, parce qu'on a vraiment été agonisants. Et 3 semaines après cette photo, il y a cette photo-là. C'est la signature pour la maison ici. 3 semaines après. Vous voyez les choses? Depuis 2015, on stresse, c'est l'agonie, les malheurs, tout semble être... Et tout d'un coup, en 3 semaines, tout s'est arrangé. Pourquoi? Parce que Dieu a vu notre comportement dans toutes les situations les plus difficiles qu'on a vécues. Dieu voit, Dieu sait, il connaît. Amen. C'est vrai, c'est comme ça, c'est pas autrement. Croyez-moi, croyez-moi. Cette confiance en Dieu te permettra de t'enraciner, d'enraciner ta présence dans ce monde. La confiance que tu vas mettre en Dieu va te permettre d'enraciner ta présence dans la communauté de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est, la communauté de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ, pas une dénomination, non, la vraie église, je vous ai déjà expliqué. Eh bien, la communauté de Jésus-Christ, c'est l'antichambre du royaume céleste. Si vous ne savez pas ce que c'est une antichambre, vous prenez un dictionnaire et vous allez regarder. Une antichambre. C'était surtout chez les gens riches qui avaient des antichambres. On recevait, alors les gens, ils rentraient dans une salle magnifique, très belle. Avant, quand ils étaient tous là, alors on ouvrait la porte et ils pouvaient rentrer dans la salle de réception ou la salle de bal, ou là où il y avait le grand repas qui était servi. L'antichambre, voilà. Eh bien, l'Église, la communauté de Jésus-Christ, c'est l'antichambre du royaume céleste. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, que chacun puisse être encouragé par ces quelques paroles et qu'il ne cherche pas encore un moyen de se culpabiliser avec une des choses que j'aurais pu dire avec maladresse, mais que chacun puisse prendre le bon côté et aller de l'avant avec ce bon dépôt. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Au revoir, à bientôt. Bye bye.